CFM, en Tarn-et-Garonne, le MAG.
Et bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous. Dans ce MAG, on fera une visite guidée de l'abbaye de Beaulieu en Rouergue, que vous connaissez sûrement pour être un monument national à Ginals, qui organise tout au long de l'année des ateliers pour les familles, qui accueille des concerts ou des expositions, visites architecturales, donc pour la dernière partie de ce MAG. Avant ça, comme tous les mardis, ce sera la chronique des coups de cœur du réseau des médiathèques, de la Comcom QRGA. Mais avant ça, sujet brûlant, un petit point sur la carte scolaire du département. Dans le Tarn-et-Garonne, il y a un retrait de 13 postes, ce qui entraînerait la fermeture d'une petite trentaine de classes quand même à la rentrée prochaine, comme à Saint-Antonin-Nobleval. D'ailleurs, on manifestait son mécontentement ce matin devant l'école primaire.
Oui, nous sommes tous réunis, parents, instit et ATSEM, personnel de mairie, pour manifester contre la fermeture d'une classe à partir de la rentrée 2026.
Qu'est-ce que ça va impliquer, une fermeture de classe dans cette école ?
D'abord, pour l'école, le personnel de l'école, une ATSEM va perdre son travail et va devoir trouver un autre travail dans une autre école. C'est une perte pour cette équipe qui travaille depuis de nombreuses années ensemble, de façon vraiment harmonieuse. Sur le plan pour les élèves directement, ça implique qu'il n'y ait plus que deux classes pour accueillir les trois niveaux. Et ça va faire un gonflement des effectifs. Ils vont passer de 17-20 élèves par classe à 23-25 élèves par classe. Et donc ça dégrade énormément les conditions d'accompagnement dans leur scolarité et les conditions de travail pour nos instits.
Il me semble que cette école accueillait jusqu'à ce jour des toutes petites sections. Est-ce que ça va être encore le cas avec cette fermeture de classe ?
Alors, plusieurs scénarios sont envisagés, évidemment. Mais il est vrai que jusqu'à présent, on accueillait les toutes petites sections. Donc, ce sont des enfants de moins de 3 ans qui étaient accueillis. Et dans le cadre de notre environnement Saint-Antoninois, où les modes de garde se font très rares et où les personnes, les familles sont souvent avec de faibles revenus, cette section de toute petite section était assez essentielle pour le territoire, pour pouvoir accueillir les familles. Et là, aujourd'hui, effectivement, c'est remis en question. Les toutes petites sections pourraient ne plus être accueillies. On ne pourrait plus les accueillir à l'école.
C'était ce matin devant l'école primaire de Saint-Antonin-Nobleval, retrait de 13 postes donc, dans le département du Tarn-et-Garonne. Merci Aurélie pour cette prise de son. Direction maintenant la médiathèque de Caylus pour, comme tous les mardis, la chronique des coups de cœur du réseau des médiathèques de Victor Le Guénec.
Bienvenue sur les coups de cœur des médiathèques du QRGA. Et aujourd'hui, on cause enfance, nature, trolls et câlins. Avec le film d'animation peut-être le plus culte d'Hayao Miyazaki, juste après Nausicaa, Mon voisin Totoro. Un film gentiment curieux, doucement étrange. Un hymne à la nature, comme à son habitude, et à l'enfance. Un film qui cache sous une apparente simplicité une œuvre riche d'influences, de références, de messages, de niveaux de lecture, le tout fabuleusement animé et mis en scène. C'est parti. Après le succès de Nausicaa de la Vallée du Vent, Hayao Miyazaki et Isao Takahata fondent en 1985 le studio Ghibli. Ghibli qui, par ailleurs, est un mot italien signifiant « le vent chaud du désert ». Information pas spécialement utile, mais je vous la laisse là. Nos deux copains, donc, s'attellent à la réalisation, mais les réussites, disons, plus modérées des films suivants, « Le château dans le ciel » et « Kiki la petite sorcière » poussent les deux compères à adopter une autre approche. Ils se lancent alors dans la production parallèle de deux projets au ton diamétralement opposé. D'un côté, Mon voisin Totoro, et de l'autre, l'adaptation d'une nouvelle d'Akiyuki Nosaka qui relate l'histoire de deux orphelins tentant de survivre au Japon à la fin de la Seconde Guerre mondiale, le tombeau des Lucioles, qu'Isao Takahata prendra en charge. Cependant, pour le petit studio, réaliser deux films en même temps pousse tout le monde dans ses retranchements. Mais après un an de travail intense, les deux films sortiront en même temps en séance double. D'abord Le tombeau des Lucioles, suivi de Totoro. Et il faut bien ça pour sortir du traumatisme gratuitement cauchemardesque du tombeau. Le but annoncé est d'attirer un public scolaire avec le premier film, disons plus historique, pour leur faire découvrir l'univers de Totoro. Si les entrées en salle proprement dites ne sont pas suffisantes pour former un succès commercial, les Totoro, créatures velues et souriantes, deviennent très vite extrêmement populaires et le studio reste bénéficiaire grâce aux ventes des peluches. Totoro devient dès lors la mascotte du studio Ghibli. Mais trêve de contexte, je vous résume tout ça. Notre histoire se passe juste après-guerre, entre 1945 et 1955, dans la campagne japonaise où nos héroïnes, Mei, 4 ans, et Satsuki, 10 ans, s'installent avec leur père, tout près de l'hôpital, où leur mère est en convalescence de la tuberculose. Le père s'abstente régulièrement en journée pour travailler, laissant nos deux gamines livrées à elles-mêmes. Elles y rencontrent un monde nouveau, peuplé de noiraudes, comme les appelle la vieille voisine, des petites bestioles duveteuses qui squattent les lieux abandonnés. Quand Mei essaye d'en attraper une, elle se retrouve les mains pleines de suie. Un jour, où sa grande sœur part à l'école, Mei, à la manière d'Alice et son pays des merveilles, suit deux créatures bizarres jusqu'à un trou au pied d'un arbre. Elle pénètre alors dans le domaine de ce qu'elle appellera par erreur un Totoro. Mei voulait l'appeler troll, Totoro en japonais, mais bafouille, donnant ainsi son nom à l'étrange animal, sorte de croisement entre un panda et un chat et un ours. S'ensuit une série d'errances, de rencontres improbables, de jeux. Totoro, c'est un conte pastoral, une œuvre onirique, contemplative et intime. C'est un film rare, sans réels antagonistes, ce qui n'a pas plu aux producteurs américains, freinant sa diffusion là-bas. Cependant, les deux gamines affrontent tout de même une chose, la peur de la maladie, de la mort, de la mère, du deuil. Et le Totoro est une sorte de personnage de transition, d'accompagnement, présent quand on a besoin de lui. À peine 15 minutes dans le film, c'est dire le niveau d'angoisse. Une idée renforcée par son absence du générique de fin. La transition est finie. C'est aussi un film anticonsumériste, rempli de divinités protectrices, mises en parallèle avec une partie du monde humain plus destructrice. On y trouve aussi un côté autobiographique dans l'histoire proposée par Miyazaki. Sa mère elle-même malade pendant de longues années, à tel point qu'il n'a pas voulu de frère dans l'histoire, de peur de faire remonter des souvenirs. À la base, même, il ne devait y avoir qu'une fille, Mei. Mais pour des raisons scénaristiques, Miyazaki lui donne une sœur, Satsuki. Et il faut savoir que si Mei se rapproche du nom anglais du mois de mai, Satsuki en japonais est l'appellation de ce même mois. Elles ont donc plus ou moins le même prénom. Avec ce film, on plonge dans un bouillon de culture japonaise. L'harmonie avec la nature et ses divinités animistes, dans lesquelles, pour faire partir les fantômes, il faut rire. Et c'est encore une fois l'opposé total du tombeau des Lucioles, qui est beaucoup plus, énormément plus terre à terre, voire cendre à cendre. Ce sont deux films miroirs. Dans celui de Takahata, les bombes tombent et tuent, et on est nulle part chez soi. L'espoir n'existe que pour être détruit à coups de baramine rouillée. Mais je parlerai de cette abomination plus en détail, avec tout autant de mauvaise foi, dans une prochaine chronique. Alors que chez Totoro, les arbres protègent et poussent d'un coup comme des anti-explosions atomiques, et les moments de peur, de perte, sont tout de suite consolés, tendrement. Pourtant, certains ont eu une lecture plus sombre du film. Selon eux, Mei est morte. Et quelques éléments peuvent nous y faire penser. Les noiraudes comme présage mortel. Sur le chat bus, une autre divinité qu'empruntent les deux filles, on peut y lire les mots comme cimetière, sanctuaire, tombeau. Il y a un plan aussi de Mei devant des statues de Jizo, une divinité vénérée au Japon, dieu protecteur, et en particulier des enfants décédés. Il faut noter aussi que l'histoire se déroule dans le district de Sayama, où s'est déroulé des années plus tôt un fait divers sordide, avec à la clé la mort de deux jeunes filles. Plusieurs lectures donc. Totoro est aujourd'hui plus qu'incontournable dans la culture japonaise en particulier, notamment grâce à la musique de Joe Hisaishi, qui est pour beaucoup. On chante encore dans les classes de primaire le générique du film. Isao Takahata dira de Totoro qu'Hayao Miyazaki l'a installé dans absolument toutes les forêts et tous les bois du Japon proches des habitants. Totoro vit dans le cœur de tous les enfants du pays, qui, quand ils voient des arbres, s'imaginent qu'ils s'y cachent. Une chose si fantastique et rarissime. Une œuvre culte aussi à l'international. Il y a un astéroïde à son nom et il en est venu à concurrencer comme emblème du dessin animé l'image de Mickey. Totoro, c'est un doudou. Totoro, c'est un film qui touche les tout-petits comme les très vieux. C'est un film où un voile délicat de magie se dépose sur la réalité à l'aube ou à l'aurore, quand les frontières se résorbent. C'est un objet de fascination et d'émerveillement qui nous pousse à l'évasion, au réconfort. Totoro, c'est un film qui te fait un gros câlin. Et c'est un gros câlin que vous pouvez retrouver dans votre réseau des médiathèques favoris. Bon visionnage et à bientôt. Thank you.
voisin Totoro était le coup de cœur du jour de Victor Le Guénec pour sa chronique des coups de cœur du réseau des médiathèques que vous pouvez toutes retrouver en podcast sur le site de CFM Radio, cfmradio.fr. Allez, la playlist CFM pour ponctuer ce mag et juste avant de se retrouver depuis l'abbaye de Beaulieu-en-Rouergue, monument national de Ginals, pour une visite architecturale en compagnie de l'association des Cisterciens en Rouergue.
Shoes that I use will feel like I'm that dog and that I remember where I'm going to. Dreams down the drain, nothing in the forensic shows I was there when people wanted to. Things are gonna be just fine, why do I feel so low? I fear of missing out, let it go for quite some time and I regret it so.
CFM Caylus, le mag.
Fondée en 1144 par l'évêque de Rodez, l'abbaye Notre-Dame de Beaulieu dans le Tarn-et-Garonne présente les caractéristiques de l'architecture cistercienne. Nichée dans la vallée de la Seille, les bâtiments, répartis selon un plan immuable, se distinguent par un appareillage soigné, un décor simple et épuré. Abandonnée à la Révolution, l'abbaye est sauvée de la ruine dans les années 1950 par Geneviève Bonnefoy et Pierre Brache. Leur collection d'œuvres d'art contemporain a orienté la vie culturelle actuelle de ce monument national. Au moment de cet enregistrement, Benoît Grécourt en est administrateur.
Alors là, nous sommes dans la bibliothèque du logis abbatial, une bibliothèque qui a été nouvellement installée pour présenter les 3000 ouvrages qui ont été légués par Geneviève Bonnefoy et Pierre Brache au Centre des Monuments Nationaux. Et là, on a devant nous un ouvrage formidable qui est la thèse qu'a produite Jean-Pierre Jouve, qui était un architecte et qui s'est présenté au concours d'architecte des monuments historiques en 63 et qui avait effectué donc des recherches très poussées sur l'abbaye de Beaulieu avant qu'elle ne soit complètement restaurée par le couple Brache-Bonnefoy. Donc c'est un document très intéressant avec des photos, des plans, des relevés et ça nous donne vraiment un aperçu très poussé de ce qu'est ce monument historique. Alors c'est intéressant de regarder cette thèse de Jean-Pierre Jouve, puisqu'elle nous donne un aperçu donc, du monument dans les années 60, à la veille de travaux importants. Et nous venons également de terminer une vaste campagne de travaux de restauration et d'aménagement de l'abbaye, qui est réouverte au public depuis la fin du mois de juin, et qui permet donc aux visiteurs de découvrir le monument dans son entièreté, et qui permet aux visiteurs de découvrir la collection d'œuvres d'art.
Thomas Poirot, coprésident de Cistercien en Rouergue.
Alors on est dans le cœur de l'abbatiale de l'abbaye de Beaulieu, de l'église abbatiale, car c'est vraiment la tête de l'abbaye, le bâtiment qu'on voit le plus, le plus grand des bâtiments, et qui accueille les moines, la communauté de moines, lors des cérémonies qui sont quotidiennes et répétées dans la journée, et la vie d'un moine. Alors si l'abbaye c'est un lieu, c'est surtout une communauté, et c'est le lieu qui va abriter cette communauté. Si l'abbatiale, c'est l'église abbatiale, est la tête de l'abbaye, le cœur de l'abbaye, c'est le cloître. Cet espace qui va distribuer toutes les pièces et qui va assurer la circulation des moines dans leur lieu de vie. Et l'abbaye, c'est un lieu de prière, mais c'est aussi un lieu de vie. Donc on peut voir plusieurs espaces qui sont bien identifiés, comme la salle capitulaire, où tous les jours, l'abbé réunit ses moines pour lire la règle qu'on appelle le chapitre, et aussi fixer les tâches quotidiennes de la communauté et même les problèmes quotidiens qui se font jour pour chaque communauté. Au-dessus de la salle du chapitre, reliée aussi à l'abbatiale, on va avoir le dortoir des moines avec un accès facilité et direct à l'abbatiale pour les offices de nuit. Donc on le voit bien par la disposition de ces différentes pièces, on a une espèce de praticité qui est liée à la vie quotidienne des moines. Il faut qu'on puisse circuler d'un espace à un autre facilement pour vivre et faire vivre ce lieu. Le cloître, c'est pas un espace anodin, il a une forme particulière, il est souvent carré, car il va être à l'image de la Jérusalem céleste de l'Apocalypse de Saint Jean, un texte biblique. Et cette Jérusalem céleste, espoir peut-être, en tout cas pour les croyants, d'une résurrection, est de forme carrée, est décrite de forme carrée. Et finalement, le cloître serait la réalisation vivante, matérielle, visible, dans la vie des moines, de cette Jérusalem céleste qu'ils espèrent atteindre après leur mort. Donc vraiment, ce cloître, un espace de distribution de toutes les pièces de l'abbaye, où à l'opposé de l'abbatiale, de l'église abbatiale, je vais avoir le réfectoire où les moines se réunissent pour prendre leur repas en silence. Devant le réfectoire, je vais avoir, lié au cloître, hein, un lavabo qui a été identifié dans les travaux de restauration qui ont été menés à l'abbaye de Beaulieu par des prospections géophysiques. On a pu identifier l'emplacement du lavabo qu'on ne connaissait pas jusqu'à présent et donc qui est bien à proximité de ce réfectoire.
Alors, l'une des spécificités de l'église abbatiale de Beaulieu, c'est qu'elle a conservé ses piscines eucharistiques, ses piscines liturgiques, dans lesquelles les moines procédaient au rituel de la purification. Et donc, ce sont des niches qui sont pratiquées dans l'épaisseur du mur, avec donc des trous d'évacuation pour l'eau.
Alors, donc là, l'église abbatiale réunit la communauté. Les communautés cisterciennes sont doubles. Il y a les moines de cœur, qui sont les moines qui ont porté, qui ont prononcé les vœux principaux, et donc qui sont dans la partie la plus proche du cœur. Parmi ces moines de cœur, on a des prêtres qui, eux, vont pouvoir dire la messe, mais tous les moines de cœur ne sont pas prêtres. Et vers l'ouest, donc derrière les moines de cœur, on va avoir les moines converts, qui sont des moines qui ont prononcé des vœux, mais qui ne sont pas les vœux des moines de cœur, qui ont une vie monastique, mais qui ont une vie monastique tournée aussi vers le travail. Ils doivent assurer, en complément et en appui des moines de cœur, la survie et la vie matérielle de la communauté. Donc cette communauté, avec deux types de vœux différents, sont réunis et forment communauté dans l'abbatiale. C'est pour ça que c'est un lieu très 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 important. Et on le voit à travers l'architecture même, car on a des piscines liturgiques qui sont situées dans le cœur, mais on a aussi des piscines liturgiques qui sont dans la nef. Celle qui était dans le chœur était réservée aux moines de chœur, et celle qui était dans la nef était destinée aux moines converts. Donc l'architecture même du lieu, nous montre encore, témoigne d'une dernière trace de cette division des groupes de moines au sein de l'abbaye de Beaulieu. Alors finalement, baladons-nous, rentrons dans cette abbatiale et mettons-nous dans la peau d'un moine convert. Lors d'un office, les moines convers, on va prendre un office de nuit, descendent l'escalier des matines, descendent du réfectoire, escalier qui a été rouvert et réinterprété lors des travaux de restauration de l'abbaye de Beaulieu, et nous atterrissons dans un bras du transept. Ce qui va permettre aux moines de regagner leur stalle, leur siège dans la première partie de la nef, et de suivre l'office qui se tient dans le chœur face à eux. Ce chœur qui est orienté à l'est et qui est orienté d'une façon bien précise, il prend en compte le relief que l'on a à l'est et il prend l'axe du solstice d'été du 21 juin. Et donc le soleil se lève le 21 juin dans l'axe de la nef. L'orientation de la nef n'est pas le hasard, elle est faite par une... Elle n'est pas tout à fait orientée, elle n'est pas plein est, elle est orientée par rapport à l'entrée du soleil, le 21 juin, en tenant compte du relief de la vallée de la Seille et donc de l'abbaye de Beaulieu. Un peu plus loin dans la nef, on va avoir donc ce vaste espace qui va pouvoir permettre d'accueillir les moines, très peu de fidèles. Alors il arrive que des laïcs viennent à l'abbaye, mais ceux-là sont relégués vraiment le plus à l'ouest. L'abbaye de Beaulieu que vous pourrez découvrir et son abbatiale que vous pourrez découvrir accorde une très large part à la lumière. Vous le verrez, même lors d'un temps gris, il y a une lumière très très particulière. Et la lumière fait partie de la scénographie liturgique, fait partie du décorum, car elle matérialise pour les moines la présence de Dieu qui vient via la lumière, mais finalement les inspirer dans leurs offices.
L'ensemble des façades de l'abbaye a été nettoyé à l'aide de brosses. On a souhaité que les entreprises fassent cela à la main pour garder la patine du temps et non pas avoir une pierre rutilante et blanche. Donc on a vraiment pris soin de garder cette patine du temps sur la pierre qui est une empreinte de son histoire.
Alors, la question de la fondation de l'abbaye de Beaulieu est un vaste chantier historique. On a une date traditionnelle de 1144, mais les bâtiments que vous pourrez venir découvrir à Beaulieu ne datent pas de 1144. Notamment pour l'église abbatiale, on sait que ce n'est pas la première abbatiale qui a été construite par les premiers moines à la mi-12e siècle. On est au moins dans un deuxième temps, sans doute à la fin du XIIIe siècle ou au début du XIVe siècle. C'est pour cela que vous le verrez, l'abbatiale est d'inspiration gothique et non pas romane, comme était sans doute la première abbatiale qui a été construite, dont on n'a pas de traces. Simplement, on peut penser, par rapport aux autres abbayes et aux autres églises abbatiales que l'on a dans d'autres sites cisterciens, que la première église abbatiale à Beaulieu avait un chevet, c'est-à-dire la partie orientée à l'est, un chevet plat et carré. Alors que vous verrez aujourd'hui qu'il est hémicirculaire.
Cette visite historique et architecturale de l'abbaye de Beaulieu en Rouergue, monument national, nous était proposée par Thomas Poirot, coprésident de l'association de cisterciens en Rouergue.
CFM.
Vous pourrez réentendre ce mag comme de coutume, sans modération et en podcast sur le site cfmradio.fr ou lors de ses rediffusions de 18h et de 21h. Vous retrouverez Rémi pour la deuxième partie du mag depuis CFM Montauban, juste après les